bosse en intérim à la production, au bout d'une chaîne, dans des boulots pas très réjouissants, et pendant les petites pauses que j'ai, je vais voir les gars, je leur dis « Putain, mais les gars, mais on va pas faire ça jusqu'à la retraite, c'est con ce qu'on fait, on fait 45 000 fois le même geste, avec la scotcheuse et le carton, et on peut pas se contenter de faire ça, quoi. » Et on me répond ça, on répond « Ben, on n'a pas le choix. » Ouais, c'est comme ça. Dans la vie, on sait pas ce qu'on veut, mon gars. Et ça me gonfle, parce qu'on a quand même des rêves, on a des projets, on n'est pas tout à fait idiot, on peut faire mieux. Et tout le monde pense ça, et des gens intelligents que je croise me disent ça, et ça me gonfle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'on n'a pas de diplôme, ou comme dans le film des 12 salopards, c'est parce qu'on est des moutons, et le méchant, il veut tondre les moutons. Il dit, pourquoi Dieu en a-t-il fait des moutons si c'était pas pour qu'on les tonde? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est, je sais pas, une espèce de mensonge qu'on nous colle dans la tête, de mensonges organisés, vous n'avez pas le choix. Finalement, c'est pratique. Une population de gens qui se dit « j'ai pas le choix », c'est des gens qui sont corvéables à merci, on en fait ce qu'on en veut. C'est quand même incroyable. C'est quoi cette résignation, Daniel? Je sais pas, si tu peux me dire si des sociologues, des historiens, des gens se sont penchés là-dessus. À notre époque, en 2012, en France, qu'on arrive à se dire « on n'a pas le choix ». J'aimerais bien leur répondre quelque chose d'intelligent et de pertinent, et j'aimerais bien que tu m'aides pour ça. Allez, salut toute l'équipe et salut à tous les auditeurs.
Eh Vincent, tu vas peut-être trouver des réponses à tes questions aujourd'hui. Peut-être. En tous les cas, c'est vrai qu'on adore ce genre de questions et on se dit que parfois il peut nous arriver, incidemment ou volontairement, de répondre à ceux qui se demandent si, oui ou non, on a le choix. La réponse peut vous le dire, si vous vous approchez très près de votre transistor, la réponse est oui. Oui, on a le choix. Mais beaucoup pensent qu'on ne l'a pas. Beaucoup pensent qu'on ne l'a pas, et depuis fort longtemps, il y a une pensée, que même pas une pensée unique, qui est une non-pensée, qui pense que ça ne sert à rien de penser. Si on veut changer les choses ne changent pas, donc c'est inutile de penser. Ça, c'est les cycles qui se reproduisent comme les saisons. Tout se vaut, tout est vu, tout est vain. C'est, voilà, ceux qui acceptent les cycles, qui même voient, qui honorent même les cycles. Et puis il y a ceux qui pensent que non, on peut agir, qu'on a des marges de manœuvre plus ou moins larges selon les époques, selon les temps, selon les moments, et qu'il y a des moments précis, des fenêtres qui s'ouvrent, des créneaux sur lesquels il faut savoir sauter. Pourquoi je commence comme ça aujourd'hui? Parce que on va parler d'Eric Hobsbawm, effectivement, l'historien britannique anglais. Eric Hobsbawm, vous l'avez entendu, est mort ce lundi 1er octobre à l'âge de 95 ans. C'est assez curieux qu'un auditeur fasse un rapprochement avec Howard Zinn ce matin même. On est très ému avec Guy Van Til et Olivier Azam, parce qu'on a rencontré ce matin la fille de Howard Zinn dans le cadre du film que nous préparons sur Zinn. Mais là, aujourd'hui, il y a une parenté entre les deux, entre l'Américain Howard Zinn et l'Anglais Hobsbawm. Quelle est la parenté? C'est qu'ils pensent que l'acteur principal de l'histoire, c'est les gens, que c'est le peuple, et non pas tel que l'histoire nous est présentée la plupart du temps par des personnages extraordinaires, hors du commun, c'est-à-dire hors de nous, qui feraient l'histoire. Eh ben non, c'est des gens comme vous et moi, des gens de peu, de la piétaille, et des gens comme Vincent qui se posent la question, qui font bel et bien l'histoire, qui sont les protagonistes essentiels. C'est cette multitude qui a intéressé Eric Hobsbawm, né en 1917. C'est pas une date indifférente dans la vie de cet homme qui a été très longtemps membre du Parti communiste britannique, qui a été toute sa vie un marxiste, post-marxiste, réfléchissant sur le marxisme, et qui a quitté le Parti communiste anglais en 1991, je crois, auquel il était resté plus par cohérence, par fidélité sans doute, que pour tout ce que ce parti pouvait représenter et dire encore. Que le Parti communiste anglais ne ressemblait à rien par rapport au Parti communiste français. Ce qui nous a intéressé, nous, en 1999, il y a 13 ans, dans cette rencontre avec Eric Hobsbawm. C'est cette rencontre sur laquelle on va revenir aujourd'hui.